Negro Spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.
Dans l'épisode précédent, nous avons pu mesurer la force intérieure qui anime ces communautés de croyants. C'est cette force qui a propulsé les Negro Spirituals par-delà les mers et par-delà les siècles, jusqu'à nous. Soon I will be done with the troubles of the world. Nous dit bientôt, s'en sera fait des tourments de ce monde. Je veux rentrer à la maison pour vivre avec Dieu. Je veux retrouver Jésus. Je veux retrouver ma mère. Là-bas, plus de pleurs. Tout dans la mélodie indique la détermination. Même quand les Moses Hogan Singers interprètent un magnifique pianissimo, ils chuchotent presque. La force est perceptible. Cette force, la puissance divine, jaillit aussi dans Apocalypse, chapitre 21.
Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples et lui-même. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'est en allé, et celui qui siège sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles.
L'espérance est là, vibrante, espérance qu'au moins dans l'autre monde, ou peut-être dans celui de demain, ces choses nouvelles se réaliseront. Ces choses nouvelles, entre guillemets, sont révélés dans le livre de l'Apocalypse, que les anglo-saxons appellent à juste titre le livre de la Révélation. Mais revenons sur la terre ferme du sud de l'Amérique, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, alors que le travail des esclaves était crucial pour la construction et l'économie de cette partie du pays. Et à l'intérieur de ce territoire, cette main-d'œuvre circulait au gré des évolutions des exploitations. Sans compter que certains propriétaires faisaient un véritable commerce de la reproduction, je ne peux pas dire autrement, oui, de la reproduction et de la vente de leurs esclaves. Mais comment s'organisait ce terrible marché? Louis Hughes, resté esclave pendant 30 ans, nous l'explique.
Le prix des petites mulâtresses, dégourdies, habiles en couture et tricot, pouvait parfois atteindre 1 800 $. Les bons forgerons partaient à 1 600 ou 1 800 $. Monsieur Maggie, dit Boss, comme j'appris bientôt à l'appeler, avait acheté 60 autres esclaves avant de m'avoir acheté moi. et ils étaient déjà partis à pied en troupe pour Atlanta, en Géorgie.
No more auction block for me. No more, no more. No more auction block for me. Many thousand gold.
No more auction block for me signifie plus de vente aux enchères pour moi, plus exactement, plus d'estrade de vente. On imagine combien cette exposition au regard des acheteurs était humiliante et même déshumanisante. Là, au marché, plus aucune différence avec le traitement réservé à du bétail ou du matériel. Plus de doute ni de nuance possible sur l'état d'esprit de ceux qui faisaient ainsi fonctionner leur commerce. Le chant poursuit, plusieurs milliers y sont passés, plus de coups de fouet, plus d'ordres de la maîtresse. Jenny Proctor se souvient de pratiques plus indignes que celles d'un maquignon.
Lorsque le maître devait vendre un esclave, il le nourrissait bien pendant quelques jours. Au moment de le présenter aux enchères, il lui passait du gras de viande sur la bouche pour faire croire qu'il en avait mangé beaucoup et qu'il serait fort pour travailler. Parfois, il vendait les bébés encore au sein et les mères, mais à des propriétaires différents.
Mais quel était le statut juridique des esclaves ? Tout simplement des biens meubles. Ils étaient aussi très souvent loués, ceci entraînant les déchirements qu'on peut imaginer. Nous retrouvons Frédéric Douglas qui se confie à nous. Ma mère et moi avons été séparés avant que je sois en âge de comprendre que c'était ma mère. En général, dans le Maryland, avant que son bébé n'atteigne 12 mois, la mère était envoyée au loin, louée dans une ferme. L'enfant restait avec une esclave devenue trop vieille pour travailler au champ. Je ne vis jamais ma mère plus de 4 ou 5 fois dans ma vie. Chacune de ces rencontres fut très brève et de nuit. Ma mère était louée chez un certain M. Stewart qui vivait à presque 20 km de chez moi. Elle travaillait au champ et on était puni du fouet si on n'était pas au champ au lever du soleil, à moins d'une permission spéciale. Permission que les esclaves obtiennent rarement et qui donne à celui qui l'accorde le titre superbe de bon maître. Elle voyageait 2 nuits pour me voir, après sa journée de travail, parcourant toute la distance à pied. Elle se couchait avec moi et m'endormait. Mais elle était partie bien avant que je ne m'éveille. Nous n'avons jamais beaucoup parlé. Bientôt, la mort a supprimé le peu que nous avions et du même coup, ses épreuves et sa souffrance.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. A long ways from home, true believer. A long ways from home. Sometimes I feel like a marble's gone. Sometimes I feel like a mammal's gone. Sometimes I feel like a mammal's gone. Way up in the heavenly land. Way up in the heavenly land. True believer. Way up in the heavenly land.
J'ai chanté Sometimes I feel like a motherless child. Parfois, je me sens comme un enfant sans sa mère, loin de chez moi. vrai disciple. Parfois, je me sens presque montée au ciel. » Ici, nous retrouvons bien sûr Osée, chapitre 14. « Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. » C'est Dieu qui se fait père et mère pour nous. Mais à quoi correspond l'expression « vrai disciple » ? Eh bien, Jésus le décrit dans Luc, chapitre 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Comment ne pas constater que les conditions de vie d'un esclave, le dépouillement total qu'il vit, l'ont mis, de fait, dans la position du « true believer », du vrai disciple. Reste à comprendre le sens et la valeur de ces renoncements. Les mots « way up in the heavenly land » sont tirés vers le haut, donc ce qui veut dire « en chemin vers le paradis ». Ils sont tirés vers le haut par la mélodie qui nous éclaire. On entend littéralement saint Paul qui explique « la résurrection pour chacun » dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce qui semblait une lamentation désespérée exprime en fait l'espérance par excellence du vrai disciple, la résurrection. Avec le deuxième épisode de Negro Spiritual du cri au chant, nous avons compris que le chant rythmait le travail, et souvent dans l'intérêt des planteurs, bien sûr, comme l'explique ce témoignage.
Les maîtres disaient toujours que quand il y avait un groupe dans les champs, tant qu'on les entendait chanter, on savait que les nègres travaillaient. Mais quand ils étaient devenus silencieux, il fallait y aller pour les remettre au travail, car quand ils arrêtaient de chanter, ils arrêtaient de travailler aussi.
Mais heureusement, la pratique de la musique en dehors du temps de travail était souvent tolérée, voire encouragée par le propriétaire, qui, au fond de son immense domaine, n'avait peut-être pas beaucoup de moyens de se divertir de toute façon.
Pendant la semaine, après le souper, on restait assis près des portes dehors, et on chantait et on jouait de la musique. Les seuls instruments qu'on avait, c'était une cruche ou une grande bouteille, un couvercle de casserole ou de poêle à frire. On tapait dessus avec un bâton ou un os. Quelquefois, on chantait si fort et si longtemps que le vieux maître était obligé de nous faire arrêter et nous coucher. Le vieux maître aimait jouer de la musique et danser, et c'était une chose qu'il permettait à ses nègres de faire. On s'amusait bien jusqu'à ce qu'il aille se saouler et dire au contremaître de fouetter tout le monde.
Malheureusement, la tendance à la cruauté et au despotisme pouvait vite reprendre le dessus, comme en a témoigné Bob Maynard.
Shepherd boy, he killed Goliath and shouted for joy. Little David, lay on your heart. Hallelujah, hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah, hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah. Joshua was the son of Nun. He never quit till the work was done. Listen, I done told you once, done told you twice, citizen help for shooting dies. Oh, little David, lay on your heart. Hallelujah, hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah, hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah, little David, lay on your heart. Hallelujah, hallelujah.
Chanté ici par Emmanja Robertson, Little David Play on Your Harp nous dit « Petit David, fais résonner ta harpe, Alléluia !» Le petit berger David a tué Goliath et il en a crié de joie. On trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, « David insista, le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Voilà un récit biblique qui offre des images vraiment réjouissantes pour celui dont la dignité a été bafouée. L'idée que David, simple petit berger, puisse abattre le géant Goliath permet de rêver à la victoire sur l'ennemi qui, pour l'instant, est surpuissant. À celui qui croit, rien n'est impossible. Alors en attendant le moment de la victoire, Fais résonner ta harpe, petit David, que la musique continue. Pour ces individus, que représente David ? David est le symbole du faible qui, dans le combat, s'en remet complètement à Dieu et ainsi obtient la victoire sur l'ennemi. Si on ajoute à cela que David a connu beaucoup de mésaventures et surtout qu'il était musicien, le compositeur présumé de 74 psaumes, il avait tout du super-héros pour les chrétiens opprimés. Mais une fois de plus, on notera la bonne connaissance des Écritures, car en plus de l'épisode phare du combat contre Goliath, on retiendra que David était contraint de jouer de la harpe pour divertir Saül, un roi despote qui tentera de tuer celui qui l'avait aidé. Nous retrouvons bien la situation décrite par Bob Ménard il y a quelques minutes, à savoir le maître qui danse avec ses ouvriers et qui, l'instant d'après, les fait fouetter. Dans la même lignée de héros que David, on trouvera Josué dans le célèbre chant « Joshua fit the battle of Jericho ».
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nothing like good old Joshua at the battle of Jericho. Hallelujah! Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Lord, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, sword drawn in his hand. Go blow them horns, cried Joshua, 'cause the battle is in my hands. Hallelujah! Joshua fit the battle of Jericho, 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 Lord. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down that morning. Jericho, Jericho, Lord. Jericho, Jericho, and the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down, and the walls came tumbling down.
Dans une version extraite du biopic sur Mahalia Jackson intitulée « Remember Me », c'est la chanteuse Lady C qui nous donne une version plutôt gospel. Nous verrons bientôt les différences et les points communs qui existent entre Negro Spiritual et gospel. Mais revenons à Josué. Il a gagné la bataille de Jéricho. Josué a ordonné aux enfants de crier pour libérer Jéricho et les murs se sont écroulés. Ici, les paroles du chant forment un magnifique condensé des temps forts de la bataille de Jéricho, que l'on trouve dans le livre 6 de Josué. Les créateurs n'ont pas jugé utile d'ajouter un mot, tout est dit. Les murs de la forteresse esclavage sont amenés à tomber si on s'en remet au Seigneur avec confiance et courage. La vigueur de la musique souligne parfaitement la bravoure du héros de Josué. Et la joie de voir s'écrouler les murs de Jéricho vibre dans chaque note. Pour un individu opprimé, en fait, c'est tout l'Ancien Testament qui reformule sa condition actuelle et illumine son futur. Qu'est-ce qui est au cœur de l'Ancien Testament ? Eh bien, en fait, c'est la notion de libération. Tout comme la formule « Délivre-nous du mal » conclut la prière que Jésus nous donne pour chercher la libération totale. Corps et âme. Le témoignage de Vinnie Brunson, ancienne esclave, nous apporte la conclusion et l'ouverture de cet épisode.
Chanter pour les nègres, c'est leur plus grande joie, leur plus grand réconfort quand ils ont besoin de ce genre de choses. Ils chantent les joies de l'autre monde et les malheurs de celui-ci, D'abord, il ne chante que les chants religieux, puis il passe à la vie sur terre. Quand il chante sur les deux à la fois, ils appellent ça des spirituals. Le temps de l'esclavage réduisait le nègre à ne vivre vraiment qu'au travers des spirituals. La plupart des véritables esclaves sont morts, mais leur chant continue à vivre pour les blancs comme pour les noirs.
Il y a un baume en Galilée pour soigner les âmes blessées. Jésus est mort pour nous tous. Annonce la bonne nouvelle autour de toi et si tu te sens découragé, l'Esprit Saint va te relever. J'ai eu la joie d'interpréter ce chant et je vous en souhaite, chers auditeurs, une bonne écoute en attendant de vous retrouver avec Imanol, que je remercie pour la conception technique et les lectures.
Avec plaisir, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Again, there is a balm in Kilifat.
Negro spiritual, du cri au chant.
Présenté par Marika Wadek.